Roger.
Bonjour Père Éric.
Nous nous retrouvons pour poursuivre notre découverte du second jour. Nous nous étions arrêtés lors de notre précédente émission sur... vous nous avez parlé de cette étendue qui sépare les eaux des eaux, les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, la corporéité aussi qui s'inscrit dans cette perspective spatiale. Et puis nous avons évoqué l'épisode de Noé, le déluge, où nous retrouvons cette confusion des eaux, ce mélange des eaux, et qui est lié un petit peu à l'attitude qu'avaient donc les contemporains de Noé, à savoir un mélange du juste et du méchant. Alors, cette confusion mentale détruit donc cette construction de Dieu que le second jour signifie. Est-ce que l'homme peut aller jusqu'à détruire aussi la construction du premier jour ?
Question difficile. Alors, il faut venir d'abord à la confusion et bien la comprendre. Donc, tout notre effort cette fois-ci, ça va être d'éclairer plus profondément ce que ça peut être que cette confusion des eaux dans lesquelles on peut mettre une séparation et y installer vraiment la corporéité humaine, qui va être le lieu des cieux. Bien sûr que dans l'histoire de Noé et du déluge, donc qui est un châtiment, le châtiment montre de quelle faute il s'agit. Il s'agit justement d'une confusion des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Donc on le montre parfaitement. Ça vient corriger la confusion mentale qui est sous-jacente. Mais bon, ça c'est des termes intello. Et donc la Bible n'utilise jamais des termes comme ça. Elle utilise des images. Mais c'est ça qui est derrière. Et ce qu'il faut comprendre, il faudra y revenir là aussi, la répétition est absolument nécessaire, c'est la confusion mentale qui est la source de la méchanceté, ou la méchanceté qui installe la confusion mentale. Il y a un rapport très étroit entre les deux. C'est pas simplement un brouillage neurologique, parce que nous on est très matérialiste, donc on pense que tout est fait par... des perturbations, par exemple, endocriniennes, bon, etc. Donc, ça peut produire de la confusion mentale, certainement. Mais une chose qui produit la confusion mentale, c'est la méchanceté de l'homme, à savoir son choix égoïste, son choix orgueilleux, par exemple. Mais là, nous entrons dans le drame de la chute. Et pour ça, pour bien l'expliquer, il faudrait que nous ayons expliqué d'abord avant les six jours de la création, le septième jour et le jardin d'Éden. Donc il nous faut beaucoup d'éléments pour comprendre ces choses-là. Donc on va se retenir en quelque sorte dans les explications à donner. Mais la confusion mentale est un des malheurs de l'humanité. Nous allons... approfondir cette question, justement en regardant plus profondément de quoi il s'agit dans la séparation des eaux avec les eaux.
Est-ce que simplement vous pouvez nous redonner un exemple de ces confusions possibles et que nous expérimentons dans ce monde et peut-être pas du côté d'une anomalie, mais plus d'une croissance en pensant justement au nourrisson qui vit cet état un peu fusionnel où il n'y a pas cette différence, cette distinction.
Tout à fait.
Conscience.
De son corps. Dans la croissance normale de l'être humain, qui n'arrive pas à sa plénitude du jour au lendemain. Il lui faut justement naître, il lui faut progresser jusqu'à l'état adulte. L'état normal de l'homme, c'est l'état adulte. L'état d'enfant, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, enfin qui n'est pas complet.
Donc le cycle de la conception et de la naissance que nous avons vu à travers le cycle nuit-jour qui peu à peu va permettre à l'enfant un développement et une conscience de son corps et vous développerez peut-être un peu plus tard, disons, son rapport aux autres.
Alors la confusion, le nourrisson ne distingue pas l'extérieur de l'intérieur au départ. Il va l'apprendre très rapidement d'ailleurs, mais il va l'apprendre. Et donc c'est vrai que la naissance de l'homme reproduit en quelque sorte ces étapes. Et souvent, les confusions restent attachées pendant longtemps. La confusion, par exemple, de la vie psychique. Alors, dans la vie psychique, je ne suis pas spécialiste, mais c'est bien connu que la psyché de l'enfant risque longtemps de ne pas se distinguer de la psyché de sa mère. Parce que c'est essentiellement la mère. Bon. Donc, même à 20 ans, à 40 ans, à 50 ans, il peut y avoir des confusions qui restent inconscientes, bien sûr. Et c'est la source de beaucoup de malheurs, parce qu'il faut que les distinctions soient faites. Hein. Et alors, évidemment, un tout petit enfant ne peut pas dire « je ne suis pas ma mère ». Mais à 20 ans, on devrait pouvoir le dire. Mais la plupart du temps, ça n'est pas fait. Comme on dit, le cordon ombilical n'est pas vraiment coupé. Autrement dit, la distinction de soi, c'est pas qu'on n'aime pas les gens. Souvent, on confond aimer et être fusionnel, justement. Mais la fusion, vous comprenez que c'est une confusion. L'amour n'est absolument pas une fusion. Bon. Mais pour ça, il faut savoir distinguer. Alors, on va continuer d'apprendre à distinguer, en quelque sorte. Donc, quel est le contraste que le deuxième jour nous enseigne et qui va nous constituer? C'est une leçon spirituelle et intellectuelle pour nous. Alors, une des conditions sine qua non de la perception, déjà. En plus, celle immédiate du contraste qu'on a apprise le premier jour. C'est une première condition. C'est de pouvoir distinguer entre l'objet perçu et la perception qu'on en a. Eh bien, cette chose très simple est difficile et il y a souvent des accidents. Comment distinguer effectivement l'information qu'on reçoit de l'extérieur et donc qui nous est intérieure? La sensation, c'est nous qui ressentons. Comment distinguer entre ce que nous ressentons et les choses que nous ressentons? Vous voyez, rien qu'à le dire, on sent que c'est difficile. Alors, on apprend très vite à une certaine distinction. Enfin, tous les gens à peu près normaux distinguent un arbre de ce qu'ils ressentent de l'arbre, mais pas complètement. Et c'est ça, séparer les eaux des eaux.
Ben, c'est ce que vous nous disiez sur l'exemple du nourrisson. Il n'y a pas de séparation entre ce qui lui est extérieur et ce qui lui est intérieur.
Il est complètement englobé encore dans sa mère. On n'en sort pas si facilement. Hein. Justement, il a commencé absolument confondu au corps de sa mère. Est-ce que c'est son propre corps ou pas son propre corps? Il y a déjà des différences colossales au niveau, par exemple, du sang, au niveau des immunités, etc. Ça, c'est la science qui nous l'apprend ensuite. Mais psychiquement, évidemment, et ça, nous n'en avons pas conscience. La prise de conscience est toujours une prise de distance. C'est toujours une distinction, justement. Et parfois un déchirement, parce que nous y mêlons de l'affectif. Mais on essaye de comprendre, là, maintenant. Hein? Percevoir le contraste. Donc ça suppose la distinction décrite le premier jour. Mais ça suppose aussi l'acte de distinction entre celui qui perçoit et la chose perçue. Eh bien, c'est pas évident parce que, prenons l'exemple de l'arbre. Nous percevons un arbre. C'est-à-dire que nous le voyons, nous sentons, par exemple, s'il a une odeur, etc., nous pouvons le toucher. Et dès qu'on est enfant, même un peu éveillé, on sait très bien que l'arbre n'est pas nous. Cependant, on projette sur l'arbre certaines choses imaginaire, parce que c'est ce que ça produit en nous. Et l'arbre, il est ce qui n'est pas nous, mais en même temps, on projette sur lui tout un imaginaire. Donc on ne fait pas la distinction parfaite entre la chose et ce que nous en ressentons. Et là où c'est plus grave, en quelque sorte, c'est dans les relations interhumaines. L'autre n'est pas ce que nous en percevons. Il est ça aussi. Et ça lui échappe d'ailleurs. Parce que l'autre ne sait pas ce qu'on perçoit de lui. Ça lui est étranger. Ce que je ressens de vous, ça vous est étranger parce que vous ne savez pas ce que je ressens de vous.
Et inversement.
Mais, et inversement, bien sûr. Hein? Mais moi, si je dis le Père Éric, c'est exactement ce que j'en perçois. Je projette sur vous mes propres sentiments.
Le Père Éric n'est plus libre.
Ah, il est vivant, mais
si vous projetez, disons, voilà, si vous
je projette quelque chose. Donc, en fait, je me fais une illusion. Ça vous change pas. Mais nos rapports sont faussés, évidemment, puisque je ne suis pas devant le mystère que vous êtes. Parce que, quelque part, si je confonds ma perception avec vous, c'est la projection. Mais c'est une confusion. Je confonds ce que vous êtes avec ce que j'en perçois.
C'est intéressant.
Mais c'est une violence que je vous fais quelque part. Mmh. Et réciproquement, parce que toutes les relations humaines sont réciproques.
Ça nous renvoie à ce que vous nous disiez, je crois, lors du premier jour de nos premières émissions, quant à la rencontre de l'autre comme autre dans ce face-à-face qui est source de lumière et qui nous renvoie au premier jour.
Bon. Ça, c'est le propre de la parole. Voilà. La parole est une relation.
Et elle est utile, justement.
Et qu'on attribue à Dieu, parce que c'est lui qui est la source de cette relation, et qui est une lumière.
Et la parole est peut-être justement cet ajustement possible dans une relation pour une altérité vraie, ne serait-ce que pour nommer les choses. Si nous nommons les choses qui nous entourent, en les nommant, nous en prenons conscience, et la parole est vecteur de non-confusion.
Non ? Oui, oui, bien sûr, oui. Mais il faut beaucoup parler.
Il faut parler.
Il faut parler. Toutes les civilisations le savent. La palabre n'est pas du temps perdu. C'est pas qu'on va se comprendre. Ça, c'est une illusion. Vouloir être compris, parce que c'est toujours très égoïste, notre affaire. Vouloir comprendre l'autre, ça voudrait dire que nous pouvons mettre de l'ordre en l'autre. Parce que c'est impossible, ça. Donc, il faut respecter un mystère profond qui reste et une part d'inconnaissable en toute chose. Mais il y a une part d'inconnaissable dans les arbres que je vois. C'est pas totalement connaissable.
Je propose que nous prenions un premier intermède musical. Donc, nous écoutons, comme lors de notre dernière émission, une symphonie de Saint-Saëns, mais cette fois-ci une symphonie en mi. Jean-François, nous reprenons. Donc je reviens un petit peu en arrière par rapport au développement où nous en sommes actuellement, pour revenir sur le firmament que vous nous avez décrit comme une chose solide, qui distingue le haut du bas, et donc le corps humain s'inscrit dans cet espace-là. Alors pouvez-vous nous expliquer un petit peu mieux ce que signifie cette dimension du corps dans l'espace?
Oui. Tout ce qui est enseigné donc concerne la construction de ce qu'est l'homme. Donc, entre le deuxième jour, dans la répétition même du cycle et du contraste, un approfondissement qui est de nommer ce qui sépare, l'acte de différence. Comment faire la différence là où il n'y en a pas? Donc il faut la faire. Et c'est pourquoi dans le récit d'ailleurs du deuxième jour, nous n'avons pas « et Dieu vit que le firmament était bon », mais Dieu fit. C'est le verbe faire à ça. Hein. Il le fait. Pourquoi? C'est un acte. Et donc ça nous a conduit vers l'idée du gouvernement. Il y a un gouvernement divin, mais il y a un gouvernement humain, puisque le monde est fait comme tel, dès le départ, pour être travaillé et contemplé, comme on verra dans le Jardin d'Éden. Donc, le corps humain détermine par lui-même un haut et un bas, à cause de la nature, bien sûr, à cause de la gravitation, bon, un haut et un bas, un devant et un derrière, et une droite et une gauche. Ça, c'est le corps humain qui l'institue par sa constitution même, pour laquelle nous ne sommes pas pour grand-chose. N'est-ce pas? Ça, c'est une donnée, notre corps. Qu'on soit, d'ailleurs, masculin ou féminin, c'est la même chose. Ça, ça institue, en quelque sorte, un repère spatial, sans lequel on ne peut pas comprendre ce que c'est qu'un mouvement seulement. Donc, si on veut comprendre ce que c'est que le mouvement, il faut instituer un repère. Donc, le repère le plus simple, c'est le repère orthonormé qu'on a en mathématiques, très simple, x, y, z. Pour tous ceux qui sont allés à l'école, ont peiné là-dessus. Bon. Mais, donc le corps humain, pour chacun d'entre nous, est plongé dans un paysage dans lequel il distingue des choses, mais pas tout. Il y a beaucoup de confusion. Mais quand on voit de près, on va distinguer, par exemple, les branches et les feuilles d'un arbre. De loin, il n'y a que du vert. On dit c'est la forêt. Mais dire la forêt, c'est un état de confusion par rapport à ce que c'est. Si on veut mieux voir, on prend des jumelles ou on se déplace. Et on va gouverner dans le paysage, en quelque sorte, l'acuité de la distinction qu'on va y mettre. Et même, alors on voit près, mais on veut voir de plus près, alors on invente un microscope. Et alors du coup, on va voir les cellules d'une feuille. Et puis on va faire un microscope à effet tunnel, on va voir les molécules, on va voir presque des atomes. Bon. Donc vous voyez que de la distinction, on en met ou on en retire, parce que quand on se contente, parce qu'on a du contentement justement, de voir un paysage, trop de distinctions nuiraient. On aurait le nez que dans des détails. Non, de voir tout un paysage, toute une montagne avec les lointains bleutés, c'est aussi un grand contentement et c'est aussi une perception du monde. Donc voyez que le degré même de distinction que nous allons mettre dans notre regard pour prendre connaissance du monde. Et il y a une connaissance globale. Quand on voit une photo satellite de la Terre, c'est une connaissance réelle de la Terre. Et quand on est sur la Terre, on ne peut pas le voir. On ne peut que l'imaginer. Alors maintenant, nous, on a la chance, au XXIe siècle, on voit des choses que nos ancêtres ne pouvaient strictement pas voir. Et voir depuis un satellite, c'est retirer de la distinction. Nous, on voit trop près, quelque part. Du coup, on n'a pas l'idée des continents. On arrivait à faire des cartes. Bon, donc on est plongé dans un paysage et l'homme est au centre du paysage, toujours. Quoi qu'il fasse, il ne peut pas faire autrement que d'être au centre du paysage.
Il est l'observateur.
Il est l'observateur. Et même quand on a une image satellite, c'est comme si notre œil était dans le satellite et on est au centre du paysage. On ne peut jamais être ailleurs qu'au centre. Bon, donc il n'y a aucun problème, parce que on nous fait la morale souvent pour nous dire « Ah, il faut pas se sentir au centre de l'univers et tout ». Mais on y est, il n'y a pas besoin de s'y sentir, hein, et on ne peut pas faire autrement en plus.
Le monde est tout anthropocentré.
Donc, croire qu'on peut être ailleurs qu'au centre de l'univers est une illusion. Alors c'est du faux anthropocentrisme. Bon.
Ça veut dire qu'on est localisé.
Mais on est localisé, et c'est nous qui...
bien précis.
Et puis en plus, la notion d'espace-temps est liée à notre corps. Alors ça, la plupart, même des physiciens, n'en prennent pas conscience. Donc il est le lieu des perceptions, et il se distingue des objets qu'il perçoit. Ça, c'est une grande chose. C'est une banalité de pas se prendre pour la montagne ou l'immeuble qu'on voit en face. C'est déjà bien. On a dit tout à l'heure que parfois, on prenait l'autre pour ce qu'on en imaginait tout de même. Là, ça devient grave. Et c'est un objet de profonde dispute et d'incompréhension des autres. Puisque justement, on projette sur eux, il a telle attitude. En fait, c'est comme si c'était moi qui avais cette attitude, donc ça signifie cela. Donc ça s'appelle la projection. Du coup, on ne fait strictement pas attention à ce qu'est réellement l'autre, qui est forcément différent. Bon. Sauf, alors, on distingue soi de ce qu'on perçoit, ça c'est très important, sauf quand on dort. Dans le sommeil, ce qu'on voit, parce qu'on voit des choses dans le sommeil, mais on ne peut pas se distinguer de ce qu'on voit, parce que ça nous est interne, justement. Et donc là, on est dans un état de confusion, mais qui n'est pas mauvais. C'est bon pour le sommeil. Le problème, c'est quand on continue à rêver pendant l'éveil. Il y a des gens comme ça. Hein, ils sont jamais là, comme on dit. Ils sont dans leur bulle.
Les hallucinations.
Et la limite de cette confusion, c'est l'hallucination. C'est de prendre ce qu'on voit pour la réalité.
On ne l'a pas dit d'ailleurs, mais je me souviens que lors d'une émission précédente, vous nous aviez dit que le déluge dont nous avons parlé se traduit par Maboul.
Maboul, oui, oui. C'est le mot hébreu qui veut dire déluge. Alors en français, un peu argotique, ça veut dire être fou. Mais bien sûr, parce que c'est un principe de folie de ne pas distinguer. Ou de trop distinguer, là aussi. Parce que le problème, c'est d'avoir cette habileté dans la distinction. Donc, la distinction corps-non-corps est une chose capitale, et si on veut la formaliser, autrement dit, la comprendre dans un modèle logique, on voit que le corps que nous sommes a, pour nous-mêmes, dès qu'on distingue un peu autre chose, quelque chose d'interne et quelque chose d'externe. Et si on réfléchit jusqu'au bout, on voit qu'il y a des choses qui sont à l'intérieur qui ne doivent pas sortir, qui sont intérieures de l'intérieur. Pourquoi ? Parce que si elles sortaient, ça détruirait le système. Par exemple, le sang. Le sang ne doit pas couler à l'extérieur. Parce que si ça coule, c'est la mort. Donc, d'un conseil, on met un pansement. L'hémorragie, c'est vite mortel. Hein ? Donc, hop, on arrête. Parce que l'intérieur de l'intérieur ne doit pas sortir à l'extérieur. Et inversement, il y a beaucoup de choses extérieures qui peuvent entrer par l'information, par la vision et tout. Mais pas tout. Loin de là. Parce que même trop de lumière, ça nous aveugle. Donc ça détruit le système. Donc un peu de lumière, mais pas trop. Un peu d'eau pour boire, mais pas trop. Parce que sinon, ça vous détruit aussi. Donc il y a beaucoup de choses dont on se distingue et qui doivent rester extérieures de l'extérieur. Donc notre corps nous donne une règle de distinction entre l'intérieur, l'intérieur de l'intérieur, l'extérieur et l'extérieur de l'extérieur. Eh bien, cette distinction correspond terme à terme, mais analogiquement, à la structure du monde, des cieux, de la terre, des eaux et
de l'abîme.
De l'abîme. Ça fait un système quaternaire et l'un répond à l'autre analogiquement. Autrement dit, corporellement, lorsque tout va bien, évidemment, quand on détruit le système, ça va plus. Quand tout va bien, nous sommes corporellement le modèle même de l'acte de différence qui fait la création. Autrement dit, l'acte créateur divin qu'on nous révèle, on dit c'est Dieu qui crée tout ça. Pour nous, ça veut rien dire au départ. Qu'est-ce que Dieu ? On n'en sait rien. Enfin, peut-être vous, parce que... Mais, oui, mais c'est ce qui est le principe de ce que je vis tous les jours dans la distinction corporelle que j'ai pour exister. Autrement dit, Dieu ne m'est pas étranger, puisqu'il est l'analogue de ma corporéité. Vous voyez, c'est très important. Alors...
Est-ce que simplement par rapport à ce que vous disiez, il faut qu'il y ait de la distinction et pas trop de distinction, quand on pense donc au sommeil de la nuit, qui est donc un état de confusion, on va dire, en tout cas quelque chose qui n'est pas décidé, gouverné par l'homme, est-ce qu'il est juste donc de garder cette dimension, je crois que c'est le cas, parce que nous avons besoin de cet état, un peu de sommeil, que vous avez décrit comme un état aussi où Dieu peut nous parler, Dieu peut nous structurer. Donc il ne faut pas trop distinguer en ce sens où il ne faut pas essayer de posséder ce monde, dans une analyse un peu trop poussée. Voilà, il faut accepter toujours ces quatre dimensions de la structure de la connaissance et dont l'abîme fait partie. Donc ce sommeil est aussi dans la perspective d'une acquisition ou d'une réception pour l'homme de ce que Dieu lui transmet.
Oui, alors la révélation, elle est complexe. Elle nous vient par les prophètes. Elle nous vient par des gens qui sont capables de laisser gouverner leur esprit par la puissance divine, de telle façon à réordonner leurs images. Nous, on est maître de nos images, en général, on en est totalement inconscient, en plus. Et donc, on risque pas de pouvoir laisser quelqu'un d'autre y entrer. Ou bien c'est la télévision, par exemple, qui va réordonner les images en nous. Donc, qui gouverne vraiment? Ceux qui font les spectacles que nous ingurgitons. Alors, quand on regarde le monde, on regarde le spectacle que Dieu offre. Et on le regarde avec notre propre corps. Donc, exister dans le monde, c'est entrer dans l'acte divin de création. Donc, je peux connaître quelque chose de Dieu du fait même que j'existe. En tant que corps qui vit, autrement dit, je dois voir, sentir, travailler, etc., gouverner, utiliser mon intelligence, mes mains et tout. Tout ça, c'est connaître Dieu. Sous un certain mode. Je ne dis pas que c'est la connaissance ultime qui sera proposée dans la vision céleste. Mais c'est la connaissance actuelle, réelle. Ça rend, du coup, la vie humaine extraordinaire. Parce que un animal ne peut pas, parce qu'il n'est pas muni de la raison que nous avons pour pouvoir comprendre ces choses-là.
Un ange non plus. Il n'a pas de corps.
Et l'ange, n'ayant pas de corps, n'a pas la sensation. Et donc n'a pas tout. Non, non. La seule vraie connaissance, c'est l'homme. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans la religion chrétienne, on dit que le Logos éternel, la puissance filiale en Dieu, s'incarne en un homme, et non pas du tout dans un ange, ni dans une bête.
Hein? Prenons une seconde pause musicale.
Thank you.
3, nous avons vu que la loi de l'indistinction est notre propre corporéité. Donc les zones non ordonnées sont des signes. Alors comment distinguer les choses en tant que choses et les signes en tant que signes ?
Voilà. Donc là, nous aboutissons à un problème de la connaissance des choses. C'est que nous voyons les choses et la révélation nous dit ces choses sont signes d'autre chose. D'ailleurs, le propre du signe, c'est de montrer quelque chose qui n'est pas. Par exemple, vous avez un panneau de la sécurité routière qui vous indique un virage. Virage serré, un virage dangereux. Mais le panneau n'est pas le virage. Il vous le signale. Autrement dit, le panneau est un signe. Donc si on se contente de regarder le panneau, l'accident est au bout. Le panneau nous signale que c'est pas lui qu'il faut regarder, mais qu'il y a quelque chose de dangereux qui arrive. Quand on voit un arbre, est-ce qu'on voit une chose qui est ce qu'on doit regarder définitivement, ou est-ce que l'arbre montre autre chose que ce qu'il est ?
Symboliquement.
Et c'est ça qu'on va appeler la symbolicité des choses. Alors, est-ce que c'est une invention de l'esprit humain, ou est-ce que c'est la nature des choses d'être ainsi ? Autrement dit, on regarde les eaux, ben, l'eau c'est de l'eau, bon, c'est H2O même quand on est allé à l'école. Eh bien, là, on ne sait pas grand-chose encore. Est-ce que les eaux nous montrent autre chose que ce qu'elles sont ? On l'a déjà dit, d'ailleurs, parce que toute l'Écriture sainte fonctionne comme ça. On nous parle des eaux pour nous parler de quelque chose de bien plus difficile, à savoir des choses mouvantes qui n'ont pas d'ordre.
De même pour le jour, la nuit, enfin, tout ce que pour nous avons jour, vu dans le vocabulaire biblique.
Pour tout.
Oui.
Pour le jour, pour la nuit, pour les arbres, pour les rivières. Vous pouvez lire toute l'Écriture sainte, c'est sous ce mode-là qu'il faut la lire. Sinon, ça n'a tout simplement pas de sens. Bon. Les pierres, oui, mais Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je construirai mon assemblée, parce que c'est la Keïla. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi il prend une pierre ? Parce qu'il aurait pu dire, porte, tu es porte, et c'est par cette porte que tous mes agneaux passeront. Hein ? Et donc, l'Église serait nommée, serait fondée sur une porte. Pourquoi pas, puisque c'est un passage. Et oui, mais Pierre, vous comprenez que c'est à cause de ce que signifie la pierre, bien plus que, et par ce qu'elle est, parce que la pierre est dure, elle est stable, elle, etc. On peut la tailler, on peut construire. Donc, par tous les éléments que corporellement on connaît, par analogie, on va voir ce que peut signifier une chose. Et donc, ça fait partie des distinctions de la séparation des eaux, c'est-à-dire, bien sûr qu'il faut séparer les choses de son propre corps, séparer la psyché d'autrui de sa propre psyché, pour pas projeter sur l'autre ses propres sentiments. C'est une politesse à avoir. Oui, mais c'est pas suffisant. Il y a une étape de plus à parcourir. Ah, le deuxième jour, ça commence à être fatigant. Mais alors, je vous dis pas le sixième. Le deuxième jour, c'est de faire ces distinctions. C'est capital pour connaître un peu plus profondément. Et je voudrais donner un texte du pape Jean-Paul II dans une encyclique qu'il a écrite, Fides et Ratio, qui explique un petit peu ces choses-là. Pour donner un poids, disons, dans la communauté, à ces distinctions. Il dit « La parole de Dieu se rapporte continuellement à ce qui dépasse l'expérience. » Ah bon ? Alors, on nous parle des eaux d'en haut, des eaux d'en bas. Ça dépasse l'expérience. Donc, si on se contente de dire « Bah oui, il y a la pluie et puis l'eau de mer », ça dépasse pas notre expérience. Et on prend les anciens pour des imbéciles. Ce qui est un mauvais cas pour nous. La parole de Dieu se rapporte continuellement à ce qui dépasse l'expérience. Et même la pensée de l'homme. Donc on va apprendre des choses que notre propre pensée n'aurait pas produites. Ça s'appelle la révélation. Parce que ce que notre propre pensée peut produire, eh bien nous le produisons. On fait des mathématiques, ça c'est notre propre pensée. Mais la révélation, c'est au-delà des mathématiques. Pourquoi ? Parce qu'il faut que quelque chose qui est a priori inconnaissable nous soit donné, mais à travers des images qui sont connaissables. Mais il ne faut pas les confondre avec les images, sinon c'est fichu. Je continue, Fides et Ratio. Comme tout autre texte, les sources qu'interprète le théologien ou l'exégète transmettent d'abord un signifié à travers ces images, justement, qu'il faut saisir et exposer. Or, ce signifié se présente comme la vérité sur Dieu. Par exemple, l'acte de création qui nous est raconté dans la Genèse est une vérité sur Dieu, qu'on a du mal à comprendre, qu'on essaye d'expliquer tout de même. Communiqué par Dieu lui-même, à travers le texte sacré. Ainsi, dans le langage humain, prend corps le langage de Dieu, qui communique sa vérité avec la condescendance admirable qui est conforme à la logique de l'incarnation. La logique de l'incarnation, elle vient du fait que nous, étant corporels, mais munis d'une intelligence rationnelle, on le verra un peu plus loin, donc capables de ces distinctions de lumière et ténèbres et de distinctions dans le non-ordre, nous sommes capables de recevoir l'analogie de la totalité du créé. Donc notre connaissance dépasse a priori celle des anges. Les anges sont très spécialisés en quelque sorte. Comme disait Gödel, qui est un grand logicien, les meilleurs logiciens, ce sont les anges. Oui, au niveau de la logique, vous comprenez, c'est très abstrait. Mais eux, ils sentent pas le froid et le chaud. Nous, on sent le froid et le chaud. Mais le froid et le chaud ont du sens. Et ce sens n'est accessible que si on est corporel. Et la logique de l'incarnation, c'est que Dieu, voulant se faire connaître complètement, doit, d'une certaine façon, se faire chair et sang pour se faire connaître. Et c'est la chair et le sang, la corporéité, qui nous fait vraiment connaître la divinité. C'est ce que nous disons quand on est catholique, quand nous mangeons la chair et buvons le sang, nous nous assimilons la corporéité du Christ. Rien de moins. Et nous recevons par là une connaissance de sa divinité. Mais ça remet d'aplomb ce qu'est la chair et le sang. C'est pas rien. Donc ça, c'est notre corporéité dans le monde. Alors nous sommes des merveilles à nos propres yeux, comme dit le psaume. Comment as-tu pu faire une merveille pareille ? Vous voyez, moi, j'ai pas besoin qu'on m'admire. Je m'admire tout seul. Pourquoi ? Je dis, mais je suis une pure merveille faite par Dieu. Évidemment, c'est un cadeau divin. C'est pas par moi-même que je suis une merveille. Ça, c'est stupide. Mais quand je vois ce qui m'est offert par la vie humaine, corporelle, en ce monde, ben, j'ai rien besoin d'autre, presque. On en perd la soif, la faim et même le sommeil, parfois. Tellement c'est beau. Bon. Je continue le texte de Jean-Paul II. En interprétant les sources de la révélation, il est donc nécessaire que la théologie se demande quelle est la vérité profonde et authentique que les textes entendent communiquer. Vous voyez, c'est notre effort, c'est de faire ça. Quelle est la vérité profonde de cette séparation des eaux hein ? On va pas passer comme ça, par pertes et profits, cette image. C'est une révélation de première grandeur. Maintenant, il faut prendre un peu de temps, ça c'est vrai, un peu d'énergie. Qu'est-ce que ces textes entendent communiquer compte tenu des limites du langage ? Évidemment, c'est là où il faut travailler le langage. Donc, eh bien, ce que nous apprenons, c'est que non seulement les mots, mais les choses ont du sens. Et toute chose va montrer dans son rapport corporel à l'homme, lorsqu'il le considère avec son intelligence qui fait des distinctions, va être un enseignement implicite qui vient de Dieu. Donc, comme disait Saint Bonaventure, le premier livre de la Révélation, c'est la création. Et le deuxième livre de la Révélation, c'est du langage humain. pour nous réapprendre à parler et réapprendre surtout à voir les choses. Parce que voir un arbre en disant « ça va me faire 3 stères de bois », c'est pas vraiment voir l'arbre, c'est projeter mon besoin de me chauffer. Ça, c'est de la pure projection. C'est vrai aussi, bien sûr, je peux découper un arbre en morceaux et me faire des bûches, et c'est bien. Mais enfin, l'arbre va enseigner tout autre chose, on va le voir au Jardin d'Éden.
Un langage humain toujours inspiré. Ah, voilà, c'est important de toujours garder cette dimension de révélation qui permet
bien sûr,
à l'homme de parler.
Ce que nous disons n'est vrai que si le texte est réellement révélé. Est-ce que ces textes de la Bible viennent vraiment de Dieu? Ça, c'est un acte de foi. C'est aussi un acte d'intelligence. Parce que lorsqu'on voit comment ils sont construits et avec quelle acuité ils nous révèlent ce que nous sommes en train de démontrer, nous sommes convaincus que ça vient de Dieu et que ce n'est pas du tout la fabrication de scribes en chambre qui font quelque chose pour plaire au roi, comme on raconte chez les exégètes.
Nous devons achever notre émission, Jean-François. Donc, je rappelle que c'était notre 6e émission. Nous poursuivrons la connaissance de ce texte précieux et fondateur de notre vie humaine et chrétienne lors de notre prochaine rencontre. Merci encore, Jean-François, et à bientôt.
À bientôt, mon père.